Vous écoutez France Culture.
Bonsoir, bonsoir à tous. Au sommaire de ce magazine de France Culture à 19h en direct consacré aux industries créatives, aux médias, aux industries culturelles, aussi à l'Internet global, nous parlons ce soir de l'édition, comment se porte le livre, comment on rajeunit aussi les équipes, comment on prépare l'arrivée du livre numérique, comment on s'adapte à Amazon, aux algorithmes et à l'iPad. De tout cela, nous parlons ce soir avec Sophie de Closet, la jeune, nouvelle PDG des éditions Fayard. Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur.
Avec vous on évoquera donc Fayard bien sûr, mais aussi l'édition, comment elle va. Pas très bien dit-on, mais encore, sujet de Soft Power ce soir. Dans un instant, pour commencer cette émission, on partira au Caire, où l'on retrouvera la correspondante de Radio France, Vanessa Descoureaux, à la veille de l'élection présidentielle en Égypte. Toujours au sommaire de cette émission, le Focus Média d'Agnès Chevaux à 19h10. Bonsoir Agnès.
Bonsoir Frédéric.
Votre focus ce soir, on parle New York Times.
On parle transition numérique des médias traditionnels, un lien avec l'édition d'une
donc
certaine façon.
Donc à la fois la presse.
Clin d'œil à Sophie de Closet.
Le cinéma aussi,
la presse,
Netflix.
Le cinéma, Netflix, tout.
Et puis au programme ce soir, encore de la musique, du rap, hein, et même aujourd'hui trois sortes de rap, du rap indie, du rap français et du rap, comment dire, nuptial. C'est Soft Power jusqu'à 20h en live tweet sur Twitter au mot-clé Soft Power, hashtag Soft Power. Désormais on peut dire d'ailleurs hashtag, hein, ça a été autorisé par le petit Robert qui désormais autorise ce mot-là. On est aussi sur Instagram, Vine, Facebook et sur France Culture en direct.
أيها الشعب الأبي الكريم اليوم أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزي العسكري.
Le maréchal est un héros parce qu'il a écouté les Égyptiens qui sont descendus en masse en juin dernier. Il les a délivrés en mettant l'armée à leur service pour en finir avec les islamistes. Avec un homme qui écoute la volonté du peuple, c'est quelque chose de précieux.
Le maréchal Sissi, à l'instant, qui annonçait sa candidature dans un média d'État suivi par l'un de ses partisans qui prenait bien sûr sa défense. Demain et mardi aura lieu l'élection présidentielle en Égypte, un scrutin sans véritablement suspense, c'est même un euphémisme, qui devrait voir le maréchal Sissi conserver le pouvoir. Restauration, dictature militaire, avec nous par téléphone en direct du Caire, la correspondante de Radio France, Vanessa Descoureaux. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir.
Quelle est la situation ce soir au Caire, à la veille de cette élection présidentielle?
Oh bah c'est une ambiance qui n'est pas très enthousiasmante au minimum. C'est même une ambiance assez terne pour tout vous dire. En tout cas, une ambiance qui n'a rien à voir avec la veille de la présidentielle de 2012 qui avait été la première présidentielle de l'après-Moubarak il y a seulement 2 ans. À cette époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de discussions, de débats dans les cafés. Là, pour être très clair, c'est une présidentielle qui ne passionne pas les foules. Peut-être parce qu'on connaît déjà le vainqueur, le maréchal Sissi, dont on voit le portrait absolument partout dans les rues du Caire en ce moment. Et même sur le Nil, puisqu'il y a quelques jours de cela, les felouks qui se baladaient sur le Nil au gré du vent, eh bien, arboraient une voile à la gloire du maréchal Al-Sissi. Donc voilà pour vous dresser un petit peu le portrait du Caire ce soir.
Donc une élection sans véritable suspense.
Ah, ça, c'est le moins que l'on puisse dire. 95% des Égyptiens de l'étranger ont déjà fait leur choix en faveur du maréchal El-Sissi. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur du plébiscite qu'on attend ici dans les prochains jours. Le seul suspense, à vrai dire, qui règne et qui va régner sera autour du taux de participation. Et ça, ce sera un élément politique assez important puisque les frères musulmans, bien évidemment, ont appelé à l'abstention. Ils ne reconnaissent pas le processus qui est en cours. Et puis aussi une partie du clan des révolutionnaires de la première heure, on va dire, ont appelé eux aussi à l'abstention. Donc, il est évident que pour le pouvoir, le chiffre de participation sera un élément très important.
Alors, depuis juillet dernier, les arrestations de journalistes sont multipliées, les sites web sont fermés, en particulier tous les médias, Vanessa, des frères musulmans et les journaux islamistes.
Dès le 3 juillet dernier au soir, dans les minutes qui ont suivi l'intervention du maréchal à l'époque, général Sissi, quand il a annoncé la destitution de Mohamed Morsi, dans les minutes qui ont suivi, et ça j'ai un souvenir extrêmement précis de ça, dans les minutes qui ont suivi, ces chaînes écran noir, le signal coupé absolument. Et donc il était très clair que dès le début, le pouvoir et les nouvelles autorités avaient cette stratégie vraiment très définie de couper tous les médias appartenant au courant islamiste et particulièrement appartenant aux frères musulmans. Cela dit, il faut quand même préciser ce qu'étaient les médias qui appartenaient aux frères musulmans, notamment la chaîne qui s'appelait Égypte 25, en référence au 25 janvier, au moment où a commencé la révolution. Ces médias étaient extrêmement dangereux, sur les Coptes notamment. On n'arrêtait pas d'entendre sur cette chaîne que les Coptes cachaient des armes dans leurs églises. On entendait aussi des choses extrêmement agressives sur les femmes qui, je cite cette chaîne, n'allaient sur la place Tahrir que pour aller se faire violer. Donc voilà, il faut savoir aussi de quoi on parle quand on parle de ces chaînes appartenant au courant des frères musulmans.
Un cas à part, mais néanmoins dans le collimateur du régime, la chaîne qatari Al Jazeera, censurée comme au temps d'Hosni Moubarak.
Alors, la chaîne Al Jazeera, c'est un dossier extrêmement compliqué parce que les journalistes qui se retrouvent emprisonnés, on va en parler un petit peu plus tard, les journalistes d'Al Jazeera, en fait, se retrouvent au milieu d'une bataille, d'une bataille politique, on va dire, un bras de fer entre le Caire et Doha. Parce qu'on sait que le Qatar a bien sûr aidé financièrement les frères musulmans. Donc, ces journalistes se retrouvent au milieu de cette bataille. Il y a deux dossiers très précis sur Al Jazeera. Il y a les journalistes de la chaîne anglo-saxonne, ils sont arrêtés. Ils sont jugés. On en est à la 9e audience. On assiste à des audiences absolument tragicomiques où le juge, qui d'ailleurs porte toujours ses lunettes au verre fumé, ce qui est assez peu respectueux pour être très honnête, avance des preuves qui sont ridicules. C'est-à-dire, on a retrouvé des caméras, des ordinateurs, des disques durs, c'est-à-dire du matériel de base quand on est journaliste. Voilà les preuves qu'il avance. Le deuxième dossier, c'est un journaliste qui travaille pour la chaîne arabophone. Il s'appelle Abdallah El Chami. Il a été arrêté lors de l'évacuation du sit-in des pro-Morsi, donc c'était en août. Et lui, il n'y a aucune charge retenue contre lui, donc il n'y a aucun procès. Du coup, il a entamé une grève de la faim depuis 120 jours. Il a perdu 40 kilos. Il souffre d'une anémie vraiment importante et il devient aujourd'hui un cas extrêmement embarrassant pour les autorités égyptiennes parce qu'aujourd'hui, il n'est franchement pas exclu que Abdallah El Chami meure très vite en prison.
Alors, dans ce tour d'horizon médiatique, après avoir évoqué Al Jazeera et puis auparavant les sites plus spécifiquement islamistes, côté pouvoir maintenant, comment les télévisions et les médias favorables au maréchal Sissi se comportent-ils ?
Avec beaucoup de complaisance, avec un élan nationaliste, et puis aussi avec, de temps en temps, des clips complètement propagandistes à la gloire du maréchal Al-Sissi, et plus largement à la gloire de la grande et victorieuse armée égyptienne. Et puis, il faut souligner que le maréchal Al-Sissi, même s'il va gagner largement cette élection, a fait campagne essentiellement à la télévision. Je ne sais pas si on peut qualifier les exercices auxquels il s'est prêté d'interview, parce qu'honnêtement, les questions étaient tellement douce, tellement gentillette que ce serait indécent, je pense, pour la profession de qualifier ça d'interview. Il faut quand même signaler que les médias publics, finalement, s'en sortent mieux que les médias privés sur cette question-là. Les médias privés sont, à mes yeux en tout cas, beaucoup plus pro-Sissi que les chaînes publiques. C'est dire le niveau de complaisance dans lequel nous sommes. Quant aux opposants, enfin l'opposant, Hamdine Sabahi, le deuxième candidat de cette présidentielle, eh bien lui, il est à peine évoqué. Et quand il est évoqué, souvent, c'est pour être traîné dans la boue, pour exprimer qu'il est probablement proche des frères musulmans puisqu'il n'est pas pro-Sissi. On est vraiment dans cette dualité basique et absolument infernale parce qu'on ne sort pas de ça ici en Égypte. Si on ne soutient pas Sissi, on est frère musulman. On ne sort toujours pas de ce débat-là.
La liberté de la presse à vous entendre, Vanessa Descoureaux. Je rappelle, vous êtes correspondante de Radio France au Caire. N'est donc pas une priorité du régime, bien au contraire. Qu'en est-il maintenant, pour terminer, des réseaux sociaux et est-ce qu'ils réussissent, fût-ce depuis l'étranger, à être une alternative?
Alors, les réseaux sociaux, ils sont toujours aussi actifs, toujours aussi efficaces, ça il faut le souligner, mais ils concernent quand même une frange extrêmement majoritaire de la population. Il faut quand même rappeler qu'ici en Égypte, un Égyptien sur deux vit sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2 dollars par jour. Vous pensez bien qu'un accès à Internet dans ces conditions dramatiques n'est absolument pas une priorité. Cela dit, Internet reste le seul espace de liberté. Il se dit même que la police a appris les leçons du passé et consacre beaucoup plus de moyens et d'énergie à surveiller ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ensuite, en termes d'information, il y a deux initiatives qui seraient vraiment intéressantes de souligner. C'est un journal en ligne qui s'appelle Madame Asr, qui travaille avec indépendance, et ça c'est assez rare dans le paysage égyptien pour le souligner. Et puis l'autre site, il s'appelle Wiki Saoura, on voit bien d'où vient la source Wiki, et Saoura ça veut dire révolution. Et bien ce site est extrêmement documenté, et il nous a appris encore ce matin, très récemment, qu'il y avait depuis l'été dernier 40 000 arrestations depuis donc le coup d'État de l'été dernier.
En conclusion, Vanessa Descouraux, avec un millier de condamnations à mort, les arrestations dont vous venez de parler, des médias muselés, peut-on dire qu'on assiste à une restauration, entre guillemets, et à la naissance, entre guillemets encore, d'une dictature militaire?
Alors, c'est même pas moi qui vais parler, c'est le maréchal El-Sissi. Il a rencontré il y a quelques jours des rédacteurs en chef extrêmement bien sélectionnés de la presse égyptienne, et c'est lui qui leur a dit « Ne vous attendez pas à un modèle démocratique avant 20-25 ans ». Son message, il est très clair, c'est la sécurité nationale avant tout, et certains de ces rédacteurs en chef qui étaient quand même un peu heurtés par le message se sont arrangés pour faire filtrer quelques informations de cette rencontre entre le maréchal El-Sissi et les journalistes. Et les journalistes qui ont parlé nous disait que le maréchal El-Sissi leur a dit très explicitement qu'il ne fallait pas trop parler des libertés individuelles, que quand il y avait un problème comme ça de société, c'est peut-être mieux d'aller en parler à son chef plutôt que de mettre à la une. Je pense que cet entretien entre le futur président de la République arabe d'Égypte et la presse sélectionnée d'Égypte vous donne une idée de ce que sera le pays dans les prochaines années.
Merci, merci infiniment Vanessa Descouraux, correspondante permanente de Radio France en Égypte. Vous étiez en direct depuis le Caire pour France Culture à la veille de la présidentielle égyptienne. Comme chaque dimanche, France Culture, 19h11 en direct, le Focus Média d'Agnès Chauveau. Aujourd'hui, la transition numérique, vous l'avez dit tout à l'heure Agnès, des médias traditionnels. Cette transition est-elle impossible? On revient sur la question épineuse de la transition numérique dans les médias. Et tant au New York Times qu'au Monde, à Libération, dans les radios, les télés, on est encore loin de voir, Agnès, le bout du tunnel.
Eh bien oui, Frédéric, c'est un peu comme la fin de la crise, on n'en voit jamais le bout. Et ces derniers temps, l'actualité semble nous rappeler que nos médias traditionnels sont loin d'avoir achevé leur mue. La surprise est venue de la publication d'un rapport interne sur la stratégie numérique du New York Times, au moment où sa directrice de la rédaction, Jill Abramson, première femme à le diriger, était mise en cause pour sa gestion de la rédaction. Il y a un an pourtant, elle parlait des mutations en cours.
Est-ce que vous pensez que ce qui se passe dans les médias aujourd'hui est une révolution ou une évolution? Eh bien, vous savez, ce n'est clairement pas une révolution. Mais je ne peux pas dire non plus que c'est une évolution en douceur. C'est une époque, vous savez, de changements formidables. Et les challenges sont exceptionnels. Alimenter une audience comme la nôtre, très diplômée, accro aux informations de qualité, qui souhaite avoir cela sur toutes les plateformes disponibles, c'est ce que nous faisons.
Jill Abramson, donc l'ancienne directrice démissionnée de la rédaction du New York Times. Alors un rapport qui a été beaucoup commenté cette semaine. Qu'apprend-on en le lisant?
Et qui a fuité d'ailleurs sur un concurrent qui est BuzzFeed, en toute confraternité. Eh bien, on apprend que le New York Times, ses 150 ans, ses gros moyens, ses 800 000 abonnés numériques, ses bénéfices même, ses innovations et son image de précurseur cachent en fait un retard commun à tous les titres de presse à travers le monde. Au moment où tout le monde ne parle que de digital first, de priorité au numérique, de publication inversée du web vers le papier et non l'inverse, les rédactions du New York Times demeurent indécrottablement print-centrique, engoncé dans un fonctionnement et dans des réflexes d'un autre siècle. Le New York Times se fait damer le pion par des nouveaux entrants digitaux dans l'âme, alors comme Vox Media, First Look Media,
puis les sites BuzzFeed, Huffington Post, etc.
Et l'audience du site du New York Times dégringole. Sa page d'accueil et ses applications mobiles sont aussi orientées à la baisse. Alors ce document interne, rédigé par 8 personnes, au fait des questions numériques évidemment, dont le fils est potentiel héritier du propriétaire du journal, est éclairant par l'analyse qu'il fait des défis auxquels est confronté le New York Times et par extension, bien sûr, des grands médias généralistes traditionnels. Le Nieman Journalism Lab d'Harvard, éminent centre de recherche américain, y voit l'un des plus importants documents de notre époque pour le secteur des médias.
Alors, il voit l'avenir, mais quels sont ces défis, si on lit dans le marre du New York Times, si on peut
dire. Eh bien, il faut une révolution culturelle pour parvenir à changer les mentalités du print, à implémenter une mentalité digital first.
Implémenter, c'est l'essentiel. Ne pas rater l'implementation.
La rédaction reste organisé encore autour des horaires du papier, c'est-à-dire autour des horaires du soir, obsédé par la une du journal du lendemain, alors que l'essentiel du trafic est le matin. Il faut aussi accorder davantage d'attention au web social, au partage des contenus et au dialogue avec les lecteurs. Et faute d'occuper ce terrain, les journalistes du New York Times laissent d'autres plateformes prospérer, y compris sur la base de contenus produits par le New York Times. Exemple, le Huffington Post a obtenu plus de trafic en agrégeant les contenus du New York Times sur la mort de Mandela que le New York Times lui-même. Alors, la conséquence générale, c'est que seuls 10% de l'audience provient des réseaux sociaux, contre 60% par exemple pour un site comme BuzzFeed.
C'est en fait ce qu'on appelle l'agrégation. Et là, pour le coup, c'est un mot presque français dans certains de ses sens. Alors, comment évoluer alors ?
Eh bien, il faut décloisonner, il faut établir des liens entre la rédaction et la technique, entre la rédaction et le graphisme, mais aussi entre la rédaction et le marketing et le département expérience client, et viser une vraie collaboration en se sortant de l'idée qu'elle menace forcément l'indépendance éditoriale. Il faut aussi innover, et pas seulement au moyen de grosses innovations comme le New York Times a l'habitude de le faire, qui sont difficilement reproductibles, tel Snowfall, ce web documentaire fameux dédié à une avalanche. Il faut chercher des formats qui permettent d'innover tous les jours, comme les quiz de BuzzFeed. Il faut mettre à disposition des collections d'articles sur un sujet donné. Il faut encourager tous les employés à innover. Il faut valoriser la recherche et constituer une équipe stratégique dédiée à l'innovation, tout en valorisant les profils numériques qui ont un peu tendance à fuir le New York Times pour aller vers d'autres sites pure player.
Mais le New York Times est loin d'être le seul concerné.
Alors évidemment, l'écho résonne en France au moment où la directrice de la rédaction, Nathalie Nougared, a démissionné de ses fonctions au Monde.
La directrice du Monde a fini par jeter l'éponge après des mois de crise au sein de la rédaction du journal. Elle a annoncé ce mercredi quitter son poste. Nathalie Nougared était très contestée dans sa façon de manager ses équipes. 7 des 11 rédacteurs en chef avaient démissionné en signe de protestation la semaine dernière. Dans un texte envoyé à l'AFP, la journaliste de 46 ans a expliqué n'avoir plus les moyens d'assurer en toute plénitude et sérénité ses fonctions. Elle est restée en poste un an seulement.
Alors son départ va-t-il suffire à régler la crise qui frappe le quotidien du soir et qui peu ou prou ressemble à celle du New York Times, car le Monde est en pleine refonte. Nouvelle formule, plan de mobilité à l'intérieur du journal, les changements qui visent à accélérer le développement numérique du journal provoquent bien des inquiétudes au sein de la rédaction, et le Monde n'est pas évidemment le seul quotidien à vivre ce virage numérique dans la douleur. La transition est aussi au cœur de l'interminable crise à Libération.
Donc un rapport décisif du New York Times, est-ce qu'en fait il change finalement les choses ? Est-ce qu'on apprend des choses ? On ne savait pas déjà.
Bah oui et non, car au fond, il n'apprend rien de fondamentalement nouveau aux spécialistes du secteur. Les ingrédients et les recettes de ce qu'il faut faire pour achever la transformation numérique sont globalement connus. Il n'empêche, les résistances culturelles et humaines au changement restent considérables. Et dans cette course folle, les médias peine à se réinventer.
Alors on a parlé de la presse, transition numérique également dans l'édition, on en parlera tout à l'heure avec Sophie Declauzet, la PDG, nouvelle PDG d'édition Fayard, mais quid de la télévision maintenant ?
Eh bien c'est un peu la même chose, les organisations de télévision peinent à se rénover et à innover alors que le changement est en cours. La télévision, du fait de l'arrivée de nouveaux écrans et de la diversification des modes de consommation des contenus audiovisuels, enregistre pour la première fois un reflux. Les Français ont passé 8 minutes de moins devant l'écran traditionnel depuis le début de l'année, une durée d'écoute qui reste quand même en moyenne, il faut le signaler, de 3h45 par jour.
3h45.
Mais ce n'est pas, écoutez bien Frédéric, avec des analyses à la Nonce Paolini qui considère que la télévision a un avenir parce qu'elle est le meilleur babysitter qu'on connaisse.
Ça c'est sa nouvelle formule.
Que le petit écran va absorber le choc que risque de provoquer l'arrivée désormais certaine de Netflix en France.
Désormais c'est officiel.
Eh bien oui, ça y est, Burgerflix annonce son lancement, a tweeté en plein Festival de Cannes, Manuel Alduy en charge du développement de Canal+ sur Internet.
Et opposant numéro 1 à Netflix.
Évidemment.
Et pour cause.
D'où le nom sympathique de Burgerflix. L'arrivée de Netflix marque probablement un tournant dans l'histoire du secteur de l'audiovisuel français. Alors rien n'est encore réglé. La preuve, ils ont du retard. Rien ni du côté des ayants droit français, ni du côté des fournisseurs d'accès, les fameux FAI, qui permettront à Netflix d'être aussi accessible par les box. Mais l'arrivée de cette plateforme de vidéo à la demande en streaming, accessible par abonnement à 8-10 euros par mois, risque de bouleverser les pratiques et le marché.
Et avec cet abonnement, vous avez accès à tout le catalogue de manière illimitée, des séries et puis des films français, hollywoodiens, internationaux, nous promet Netflix. Alors il ne faut pas rêver, ce ne sont pas des exclusivités. Hein. La plupart des contenus ont déjà quelques années, ce sont des rediffusions, mais le catalogue comporte quand même des productions originales. Tout cela sera disponible, dit le communiqué, sur TV, tablettes, smartphones, consoles de jeux et ordinateurs. Netflix compte des 48 millions d'abonnés à travers le monde. Et selon les estimations, il pourrait séduire en France plusieurs centaines de milliers de personnes, voire peut-être 1 million d'abonnés d'ici la fin 2015.
Alors Netflix, c'est de la SVOD, c'est-à-dire de la VOD, de la vidéo on demand à l'abonnement. Mais la SVOD, ça existe déjà en France.
Bah oui, il y a quand même Canal Play, Filmo TV, les 5 chaînes d'OCS d'Orange. Et pour autant, on ne peut pas vraiment dire que les chaînes traditionnelles aient anticipé une transformation radicale, une révolution des mentalités. Quelle est-elle, cette révolution ? Eh bien, c'est celle qui nous fait passer d'une logique d'offre à une logique de la demande. Et de ce point de vue, nul ne peut rivaliser avec la puissance de feu de Netflix. Son budget d'achat de droits de 2,5 milliards de dollars par an, sa capacité à produire des fictions, une série est déjà tournée à Marseille, elle est en cours, et surtout la puissance de son algorithme, un algorithme qui permet à tout un système de recommandations extrêmement perfectionné. Et Netflix n'est que la première escarmouche parce qu'il y a aussi Price Minister, Amazon, qui lorgne avec des offres similaires déjà vers le marché français. Bref, il y a urgence pour les chaînes de télévision, le cinéma, l'écosystème audiovisuel français, tout comme la presse écrite, à repenser les schémas traditionnels.
La chronique, le focus média d'Agnès Chevaux. Je précise d'ailleurs que Manuel Alduy, qui est responsable, dont vous parliez à l'instant, Agnès, qui est responsable de Canal+ OTT, dans Over the Top, c'est-à-dire tous ceux qui préparent l'affrontement face à Netflix notamment, sera le 22 juin invité de cette émission Soft Power. Dans un instant, je reçois Sophie de Closet, la nouvelle PDG des éditions Fayard. En attendant, le premier album du rappeur du Tennessee, Isaiah Rashad. Il a lancé sa musique sur le site SoundCloud. Reconnaître, influencé par Jay-Z, Lil Wayne, Erykah Badu et même le film Scarface. Il est l'une des révélations 2014. Retenez son nom, Isaiah Rashad. Yeah. Now everybody telling me a lie. Lord, they give me something for my soul. See, I don't wanna think of suicide. So please don't take the lock out my door. See, I've been tired of fucking all these girls. And I've been tired of spending all my dough. And if I get my story to the world, I wonder if they book me for a show. See, you can't handle pressure on your own. So why you carry boulder by yourself? The story, story, tell it wrong. And glorify the horror and the wealth. Now mama come and tell me, come me home. And I just need some guidance in my steps. I know I'm not the only one alone. I'm not the only one that felt.
Now I'm praying that I make it 25. Baby, call the doctor for my health. And know it's kinda hard to say the drug, cause I've been having problems with myself. And I've been asking questions, what a love. And they don't give me answers, just a check. And they don't know my issues as a child, cause I was busy cutting on myself. And hanging from the playground went wrong, until you got a rope on your neck. And I've been losing more than just my mind, gathering wisdom for self-respect. And daddy, why you coming, why you drunk? And why you never let me when I need it? And I don't wanna be like you no more. And I've been trying to cope, I'm getting with it.
France Culture, 19h25, on est ensemble jusqu'à 20h avec notre invitée ce soir, Sophie de Closet, PDG des éditions Fayard. Je vous voyais écouter cette musique, on peut aimer le rap et diriger Fayard.
Ah, j'espère bien, oui. En tout cas, c'est mon cas, donc ça doit être possible.
Vous avez une petite préférence pour tel ou tel rappeur, on écoutera tout à l'heure Kanye West.
J'aime bien, j'aime beaucoup Kanye West.
Même le titre qu'on passera tout à l'heure.
Surtout le titre qu'on passera tout à l'heure.
C'est quoi?
Heartless.
Sophie de Closet, vous êtes arrivée à la tête de Fayard. Comment est-ce que on devient PDG d'une maison de ce type? Je veux dire, quel est le rapport qu'on doit avoir avec les livres? Vous êtes historienne, normalienne, vous avez 36 ans, vous dirigez au fond une grande maison patrimoniale. On pourrait presque dire que c'est un slogan au fond. Comment est-ce qu'on est... Et on ressent ce besoin des livres pour peu à peu aller vers cette profession.
Les livres, je suis un peu née dedans. Pour ma part, j'étais dans une famille où les livres étaient clairement ce qui était le moyen le plus excitant et le plus important pour transmettre le savoir, pour illuminer la vie et les écrire et aimer ceux qui les écrivaient était le plus important pour mes parents. Donc je suis pas allée chercher.
Votre père a fait des best-sellers connus.
Voilà, et ma mère était journaliste littéraire, donc je suis pas allée chercher très très loin l'amour des livres. Mais après, j'imagine que ça suffit pas et que entre aimer les livres, aimer lire et puis aimer s'occuper de ceux qui les écrivent et puis travailler avec eux, il y a sans doute un pas. Et en tout cas, un pas que moi j'ai franchi le jour où j'ai fait un stage chez Grasset après mes études et où je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit.
C'est votre thèse à ce moment, c'est ça?
Oui, j'avais...
Vous essayiez?
J'essayais. Je m'étais dit que j'allais faire une thèse sur l'histoire des éditions Grasset. Et puis je me suis dit quand même j'allais faire un stage pour voir. Et le premier jour, c'était l'épiphanie. Je me suis dit que c'était incroyable qu'on puisse être payé pour faire un truc aussi excitant que ça.
Et pourquoi pas une thèse sur Fayard, après tout?
Pourquoi pas? Parce qu'elle avait déjà été faite par Sophie Grandjean, qui est directrice littéraire chez Fayard et qui a fait une thèse brillante sur ce sujet avec Jean-Yves Mollier, figurez-vous.
Lorsque vous arrivez au fond, finalement, dans ces années d'aujourd'hui et de transition numérique, on en reparlera tout à l'heure, mais la question c'est est-ce qu'au fond c'était le job de votre vie, mais est-ce que vous n'arrivez pas au moment où le rêve, comment dire, est presque fini, ou en tout cas suffisamment en train de changer pour que tous les enjeux qui vous ont mené à l'édition ne soient plus ceux d'aujourd'hui?
Bah non, je pense pas. Et puis heureusement, parce que sinon ce serait déprimant. C'est vrai qu'il y a dans la culture des éditeurs peut-être une petite tendance à la lamentation perpétuelle sur le fait que c'était mieux avant. J'avoue que je suis d'un naturel enthousiaste et optimiste et que je pense que dans toutes les époques de transition comme celle que nous traversons, il y a des opportunités, il faut faire attention, il faut préserver ce qu'on a, mais il y a forcément des choses à gagner. Le problème, c'est généralement quand on traverse une période de mutation, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas toujours ce qu'on gagne, ni qui gagne. Donc c'est assez déstabilisant. Mais forcément, depuis Gutenberg, le livre est quand même au cœur de notre civilisation et il va continuer à l'être, quoi. Donc la déploration permanente ne me paraît pas un moteur d'action très propice. En tout cas, ce n'est pas le mien.
Anna Chevaux.
Sur votre parcours, Sophie de Closet, on vous entend, il suffit de faire une thèse, de lire des livres, et puis à 35 ans, 36 ans, on devient PDG de Fayard. C'est quand même un parcours qui a valeur d'exemple, qui doit faire rêver des centaines de jeunes. Alors on parle en plus beaucoup de plafond de verre pour les femmes. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui... Ça suffit pas quand même de faire une thèse et de savoir lire des livres. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive aussi jeune, à 35 ans, PDG d'une maison aussi illustre que celle-là?
Beaucoup de travail et beaucoup de chance. Je pense que des gens en effet qui aiment lire et qui sont compétents et qui aiment ce travail, il y en a beaucoup. Je pense que moi j'ai eu particulièrement de la chance dans
mon
parcours.
Il faut du flair, quelles sont les prédispositions?
il faut, oui, il faut du flair, il faut beaucoup, beaucoup de passion et beaucoup de travail.
Il y a quelques jeunes éditeurs qui arrivent à la tête de grandes maisons d'édition, oui. On pourrait citer La Découverte aussi, d'autres.
Jalon,
est-ce que
Hélène
c'est pas Fiamma. Justement cette peur aussi du numérique où au fond, ceux qui possèdent ces maisons, en l'occurrence vous êtes dans le groupe Hachette, se disent peut-être qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui est capable de comprendre un peu ce qui est en train de se passer?
Heureusement qu'il y a des gens qui ont plus de 40 ans et qui comprennent ce qui est en train de se passer.
C'était pas forcément le cas. On mettait pas quelqu'un de 36 ans à la tête d'une grande maison aussi célèbre il y a quelques décennies.
Oui, mais alors c'est peut-être parce que j'ai fait de l'histoire que j'ai un peu le recul. Claude Durand, quand il a pris la tête des éditions Fayard, il avait à peu près mon âge. À cette époque-là, Jean-Claude Fasquelle, il était à la tête de Grasset, il n'était pas beaucoup plus vieux. Donc. Je pense que oui, il y a eu peut-être une petite période de glaciation qui n'était pas forcément uniquement propre à l'édition, mais à bon nombre d'entreprises. Mais en tout cas, des gens énergiques et de mon âge à peu près, avec quand même 10 ans d'expérience, qui ont pris la tête de maison, ce n'est pas quelque chose de totalement inédit.
Votre prédécesseur à la tête de Fayard était prestigieux. Il s'agit d'Olivier Nora. Donc, il a absorbé Hachette Littérature. Il a repris la collection de Poche Plurielle. Aussi, la marque Mille et Une Nuits.
Mille et Une Nuits, ça fait 20 ans.
Ah, ça fait 20 ans. Je crois que c'était lui. Non. Il a diminué la production du nombre de titres. Il a assaini les comptes de l'entreprise. Quelle est la prochaine étape pour vous?
La prochaine étape, c'est continuer sans doute à diminuer encore un petit peu la production. Et puis, c'est... Non, mais parce que
c'est arrivé. À la fois difficile et nécessaire, c'est ça?
Non, c'est pas ça. C'est que l'époque où on pouvait répondre à la baisse de la demande par l'explosion de l'offre, pour reprendre la formule de Jérôme Ladon, elle est révolue. Maintenant, il faut faire 5 fois les efforts qu'on faisait il y a 5 ans pour avoir des résultats équivalents, voire légèrement inférieurs.
Ça fait combien de titres par an?
Ça fait 270 l'an dernier et sans doute 245 cette année. Ce qui reste quand même encore.
Vous pouvez même pas lire tous ces livres. C'est ça que ça veut dire aussi.
Non, mais c'est pas grave si moi je les lis pas tous sur la première et dernière page. Mmh. On est 40, je porte pas ça.
Alors Fayard, c'est une maison. Comment est-ce que on a un peu traité déjà ce qu'est les quelques noms qui l'ont faite, mais quelle est cette identité? Quelle est son identité au fond à Fayard? Comment est-ce que vous relieriez son histoire à ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que c'est Fayard et pas Grasset ou d'autres maisons du même groupe même?
C'est une maison patrimonial, vous l'avez dit, c'est-à-dire qui est très ancré dans le temps long, qui a un catalogue et un fonds très important, et ça s'entretient. Il faut continuer à publier des ouvrages qu'on va vendre, j'espère, pendant encore des dizaines d'années.
Par exemple, les grands auteurs, on connaît bien sûr Solzhenitsyn ou encore Cadaré, Max Gallo, Régis Debray, mais qu'est-ce qui fait que vous aimez Fayard, par exemple, vous-même?
J'aime Fayard parce que c'est une maison audacieuse. C'est une maison audacieuse parce qu'elle continue à se lancer dans des projets patrimoniaux incroyables qui font frémir en musique, en histoire, qui pourraient faire frémir nos concurrents en se disant que c'est pas raisonnable de se lancer dans, je ne sais pas, la correspondance de Chopin ou dans l'édition du séminaire d'Alain Badiou en 16 volumes sur 8 ans. Nous, ça ne nous fait pas peur, on est content de le faire et en plus on le fait et ça marche, c'est traduit, c'est des livres qu'on vend pendant des années. Puis c'est une maison audacieuse parce que c'est une maison qui n'a pas peur de soit d'investir dans la création des jeunes auteurs, soit de faire des livres qui font l'actualité et de continuer à faire des documents et de l'investigation un peu choc.
Et c'est ça qui fait son ADN, son identité, pour reprendre l'expression de Frédéric, par exemple, par rapport à Grasset, qui est une maison proche. On a parlé à un moment, on se demandait s'il y allait y avoir une fusion.
Il y avait même une guerre à l'époque de Claude Durand entre Grasset et Fayard.
Comment une vous saine émulation.
Comment aujourd'hui, au-delà de la saine émulation, vous pourriez définir justement l'identité des deux maisons?
C'est des maisons qui ont un catalogue très différent.
Que vous avez Renaud Camus et pas eux, quoi.
Ouais, on a Renaud Camus, ils ont d'autres. On a aussi, oui, on peut dire ça comme ça. Je ne l'aurais pas défini exactement comme ça, Frédéric.
Vous auriez dit Michel Houellebecq à l'époque.
Voilà, cet esprit Gabriel. Taquin. Non, c'est une maison qui n'a pas... Déjà, c'est une maison qui ne vit pas autant sur son fond, qui n'a pas le même fond et le même catalogue. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, on commence l'année, 20% du chiffre d'affaires, c'est le fond. Et c'est aussi un rapport au temps et au choix de production qui est aussi assez différent. Et puis, c'est une maison qui est très orientée, et un peu plus orientée que nous sur la littérature.
Donc,
quand
c'était
même
bien de maintenir ces deux maisons comme ça, avec chacune leur identité, et de ne pas les fusionner dans un secteur qui, pourtant, est hyper concurrentiel.
C'est le choix qui a été fait par Arnaud Nourri et Olivier Nora.
Mais ça veut dire que dans un grand groupe comme Hachette, il y a ce qu'on appelle des imprints en anglais, c'est-à-dire des maisons d'édition indépendantes. Et au fond, cette autonomie est la clé dans un secteur qui est quand même de la créativité, de la culture.
Bah oui, je pense qu'on dit maison d'édition et c'est pas des firmes, c'est pas des enseignes, quoi. C'est comme des maisons de couture. On est quand
même vendez pas des petits pois, quoi.
Non, on vend pas des petits pois. On est des artisans, on fait des prototypes. On a une identité extrêmement forte. Il faut que les écrivains, quand ils viennent chez nous, ils se sentent vraiment chez eux, littéralement, que ce soit une maison, avec une marque, une culture extrêmement particulière et singulière à chaque maison. Et en plus, on a la chance d'être des artisans et travailler vraiment chaque livre comme si c'était des prototypes, en étant appuyé et soutenu par un groupe extrêmement puissant. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Après, le rapprocher des marques, l'histoire de l'édition montre que c'est toujours des opérations extrêmement difficile et singulière, parce que la question est de savoir, quand vous rapprochez deux marques, l'une qui a 150 ans, l'autre qui en a 100, qu'est-ce qu'éditorialement, qu'est-ce que vous apportez à vos lecteurs et à vos auteurs en plus à la fin?
Alors faisons un peu de politique fiction, Sophie de Closet, vous êtes nommée PDG de Fayard, qu'est-ce qu'il faut préserver, qu'est-ce qu'il faut faire évoluer?
Ce qu'il faut préserver, c'est ce qu'on fait de mieux, c'est... le souci d'exigence qu'on met dans chaque livre, c'est les risques que prennent tous nos éditeurs et la qualité de travail qu'ils investissent dans chaque livre. Et puis ce qu'il faut faire évoluer, c'est, je pense, peut-être une plus grande attention à l'environnement qui change beaucoup pour faire connaître ces livres, parce que c'est de plus en plus difficile. Et que si on continue à faire l'édition, essayer de promouvoir nos livres comme on le faisait il y a 15 ans, c'est sûr que dans 5 ans, on fera moins les malins.
Alors restons un peu sur ce sujet très central. C'est la question de la critique, la question de la recommandation. Ça va mener aux algorithmes, après on en parlera. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui cloche dans ce secteur aujourd'hui?
Ce qui cloche, c'est vous, Frédéric. C'est le secteur des médias qui va...
C'est-à-dire que si on fait la une du Monde des livres ou de Libération des livres, ça ne suffit plus aujourd'hui.
On est ravis.
On est ravis, mais ça ne suffit plus aujourd'hui.
On est très, très contents. Mais non, ça ne suffit plus. Surtout, oui, il y a 20 ans, on avait un auteur, l'attaché de presse annonçait que l'auteur était invité chez Bernard Pivot.
C'était fini.
Hop.
Et puis voilà.
On réimprimait.
Mais qu'est-ce qui a changé justement dans la promotion du livre? On en parle moins ou simplement cette forme de recommandation ne fonctionne plus comme elle a pu fonctionner effectivement du temps d'apostrophe?
Les deux, mon capitaine. Il y a moins d'espace pour les livres. Il y a moins d'attention pour l'écrivain qui est peut-être un personnage un peu moins spectaculaire ou un peu moins intéressant aux yeux d'un très large public ou en tout cas aux yeux des gens qui décident de ce qui intéresse un très large public. Donc il y a moins d'espace pour les livres. Et puis il y a une audience qui s'est extrêmement fragmentée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un grand rendez-vous littéraire qui rassemble des millions de gens et qui est prescripteur. Donc c'est très difficile aujourd'hui de savoir comment susciter le désir chez les lecteurs pour nos livres.
C'était pas déjà frais il y a 10 ans quand vous avez commencé à travailler dans l'édition? Vous avez vu vraiment le phénomène évoluer durant ces 10 années?
Maintenant, on n'est plus sûr de rien. On ne sait plus ce qui marche. Alors, l'accumulation de tout marche, mais parfois, il y a une décorrélation entre un emballement médiatique et la réalité de ce qui se passe en librairie qui est folle. Et l'inverse est vrai. Il y a des livres qui font des scores sur le moyen terme qui nous ravissent, mais alors que les médias ont totalement zappé. Donc, on ne sait plus ce qui marche ou ce qui ne marche pas.
Certains journalistes, critiques, chroniqueurs sont à la fois écrivains, publient dans certaines maisons, sont parfois membres de jurys littéraires. Donc il y a une sorte de monde fermé, un peu consanguin, avec des liens consanguins. Bon, je ne dis pas que c'est toujours une source de corruption, mais parfois on aimerait qu'il y ait un peu moins de cumul.
Le patron de Fayard à l'époque, c'était en octobre 2013, dans Média Le Mag. Enfin, il avait déjà quitté. Il était en train de quitter Fayard. Claude Durand, c'était sur France 5. Il est toujours, mais il n'est plus PDG.
Non.
Là, en l'occurrence, c'est la question des prix littéraires. Mais à la fois sur la question des prix, il faut sortir de la logique des prix et des suppléments littéraires qui ne font peut-être plus assez vendre, sauf exception. Et dans ce cas-là, on va vers quoi?
Sortir de cette logique-là, tant qu'elle existe et qu'elle permet quand même à des gens de s'intéresser aux livres, c'est-à-dire que la rentrée littéraire et les prix, on peut faire 1000 critiques et celles de Claude, je peux les reprendre à mon compte. Et il n'en reste pas moins que c'est un moment dans l'année, on est un pays où on parle, on s'intéresse, on s'hystérise sur des romans. Et ça, c'est quelque chose dont on peut se réjouir.
Lui qui était très critique à l'égard des prix littéraires souvent, mais contrairement à son voisin de Grasset avec toute la bataille qu'on connaît.
Oui, bien sûr. Et c'est vrai que ce système, on peut lui reprocher vraiment beaucoup de choses. Mais il n'en reste pas moins que je me souviens quand, justement, Michel Houellebecq, pour La possibilité du Nil, n'a pas eu le Goncourt, mais a eu l'Interallié. Il était très déçu, on a fait un verre, et il nous a fait part de sa déception, et qu'on partageait tous, et quelqu'un lui dit « Mais quand même, vous êtes traduit dans plus de 25 langues, votre livre est déjà un immense succès, après tout le Goncourt. » Et il lui a dit « Mais ouais, mais il y a des gens, ils achètent un livre de littérature contemporaine dans l'année, c'est le Goncourt. Alors je m'en fous de savoir comment et pourquoi il est attribué, je veux en être, parce que j'écris pour ces gens-là et j'écris pas pour vous. » Et je pense qu'il avait raison.
Vous disiez tout à l'heure, on ne sait plus ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'imagine que parfois dans votre bureau, vous devez être saisi par l'angoisse. Comment on fait pour débusquer la bonne idée, le bon auteur? Quelle est votre recette personnelle? À quel moment vous vous dites, oui, ça tout de même, je prends le pari parce que j'imagine que ça va marcher?
Je vous parlais de Nonce Paolini tout à l'heure. Il y a un déjeuner, il réunit des éditeurs, des écrivains, parce qu'il aime beaucoup la littérature. Et puis on discutait, et il me dit, mais sur quel outil marketing? Mais oui, Frédéric. Et oui. Et il me dit, sur quel outil marketing fondez-vous la décision éditoriale? Je l'ai regardé, je lui ai montré l'espace entre ma lèvre supérieure et mes sourcils, en me disant, ça se passe à peu près là, quoi. C'est en gros... Voilà, c'est l'instinct, quoi. Si Dieu soit loué...
Ça reste très artisanal, tout de même.
Mais oui, on n'a pas beaucoup d'outils marketing. Et j'ai peut-être la naïveté de penser, mais elle a été prouvée par l'expérience, que les livres qu'on aime vraiment, qu'on est fier de rapporter chez soi dans les bibliothèques, d'offrir à ses potes en disant « Mais lis ça, c'est génial. Et si je ne l'avais pas publié, je serais allé l'acheter. » Eh bien, généralement, quand même, ils trouvent un public. Pas tous, malheureusement, mais quand même... la passion, l'enthousiasme et faire ce qu'on croit, ça marche.
Je vous recommande un article d'un certain George Packer, grand reporter au New Yorker, qui fait une très longue étude qui vient de paraître sur Amazon. Ça s'appelle d'ailleurs « Cheap Words », les mots un peu comme ça, « cheap ». On peut le traduire quasiment textuellement. On va mettre les références sur le site de l'émission et sur le compte Twitter. Au fond, il montre ce monde qui arrive de l'édition. D'ailleurs, il ne le défend pas. Au contraire, il le critique de la destruction de ce qu'a été l'édition avec, au fond, désormais, des algorithmes, justement, des statistiques. Des techniques, notamment des pourcentages, on y reviendra, mais qu'Amazon utilise pour mettre en avant certains livres sur sa homepage, et ainsi que tout un tas d'éléments qui vont permettre de recommander des livres. Donc là, vous êtes à la fois, vous défendez un monde qui n'est pas celui-là, mais est-ce qu'on peut y échapper?
Oui, j'espère. En tout cas, il décrit un monde qui est un monde outre-Atlantique, qui est un monde américain, qui est quand même pas exactement
la situation. 5 ans d'écart.
Et la loi du prix unique du livre, par exemple.
Mais vous croyez que ça peut suffire?
Pour l'instant, en tout cas...
Ou on se raccroche aux branches comme on peut?
C'est déjà de la bonne branche, quand même.
Solide. Oui.
Non, je pense que malgré tout, ce qui est compliqué, si vous voulez, et c'est ce que disait Agnès tout à l'heure, c'est comment on fait pour éviter de passer d'une logique de l'offre à une logique de la demande, quoi. C'est-à-dire qu'on produit...
Et puis de la sélection à la profusion.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'on publie tous les jours des livres que les gens n'attendent pas parce qu'ils ne savent pas qu'ils existent. Et moi, quand j'entre dans une librairie, je pars avec le livre que j'avais l'idée d'acheter et puis aussi un livre de cuisine, un livre pour mes enfants, un polar et des livres dont j'ignorais même l'existence avant d'y entrer. Quand je vais sur Amazon, en effet, je pars généralement avec le livre que j'avais voulu acheter et puis éventuellement...
C'est là où l'algorithme de recommandation arrive.
Oui, et cet algorithme-là...
Parce que les algorithmes, c'est pas demain, c'est là, c'est tout de suite.
Oui, c'est tout de suite et c'est un problème.
Et vous craignez pas que ça marche
tout de suite? Que ça marche, c'est-à-dire?
Que la recommandation, au fond, elle est là, enfin, elle arrive, ce qu'on appelle aussi la curation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte qu'avec des algorithmes, mais aussi un petit peu d'éléments humains qui existent encore un petit peu chez Amazon, on arrive à répondre à une partie des demandes.
Une partie, mais je pense que cette algorithmisation,
créer
un barbarisme vraiment atroce de la recommandation, elle est quand même très inquiétante et très néfaste. pour nous autres éditeurs, pour les lecteurs et puis pour les libraires. Oui. Parce que je ne peux pas penser, et je n'ai jamais vu en tout cas, puisqu'en effet ça existe, un algorithme qui peut aller avoir la variété de la recommandation d'un libraire. Donc je pense que ça, pour l'instant, Dieu soit la loi du prix du livre unique protège les libraires, et on a un réseau incroyable en France, et c'est une bénédiction pour les éditeurs et pour les écrivains.
Oui, et en même temps, ça change dorénavant un peu aussi le travail de l'éditeur, puisqu'avant, une partie du travail de l'éditeur, c'était de convaincre les libraires que le livre était formidable, qu'il fallait en faire la promotion. Oui, mais on ne pourra pas convaincre un algorithme comme on arrive à convaincre un libraire. Ça ne passe pas tout à fait par les mêmes mécanismes. Donc il y a quelque chose qui, dans la recommandation, échappe complètement. Échappe à tout le monde, puisque ce ne sont plus que des logiciels, en fait, qui parviennent à faire cette recommandation.
Non seulement ça échappe à tout le monde, mais ça accélère un processus qui est en cours et qui me paraît pas formidable, qui est la best-sellarisation. Je fais que des barbarismes atroces. Le poids croissant des best-sellers dans les librairies, c'est-à-dire les livres qui se vendent de plus en plus, et les livres qui se vendent pas se vendent de moins en moins.
Ils attrapent tout, quoi, au fond.
Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une radicalisation, mais c'est comme dans la société, il y a une radicalisation des inégalités qui me paraît souhaitable.
Mais alors, on a donc ces algorithmes qui fonctionneraient peut-être pas si bien que ça, mais on a aussi tout ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux les recommandations pour le coup personnelles. Mmh. Si vous faites un petit like sur Facebook, c'est quelque chose que vous avez vraiment aimé vous-même, que vous transmettez à vos amis, etc. Donc là, il y a un territoire un peu justement de curation. On n'est pas dans l'algorithme, on n'est pas juste dans l'humain, on est dans un mélange assez évident. Donc là, il y a toute une perspective et c'est pour ça qu'on est tout à fait séduit de voir que vous êtes sur Facebook et Twitter et que Fayard y est aussi. En réalité, je m'amuse là puisque vous n'y êtes pas et Fayard non plus.
Fayard, si, je crois.
On ne les a pas trouvés. Ils sont bien cachés.
Vous avez mal cherché. Moi non, pour des questions de temps. Mais de toute façon, vous savez bien, puisque vous y êtes, que quand on va sur Twitter et sur Facebook avec marqué « Regardez, j'essaye de vendre des livres », c'est la meilleure moyen de faire fuir tout le monde.
Donc la recommandation ne peut pas être faite par les gens et pas par l'éditeur lui-même
ou... Elle ne peut pas être faite, en tout cas, avec des gros sabots d'éditeurs venant fourguer ses bouquins. Parce que si ça marchait, je vais vous dire, on y serait tous et puis on le saurait. Donc il va falloir être plus malin que ça, je pense.
Alors comme vous aimez le rap, on vous repropose du rap. Et ce coup-ci, du rap français, comme quoi il n'y a pas que l'édition qui mérite d'être défendue en France, mais aussi sa musique.
Les plus grandes blessures de nos mères, c'est nos erreurs. Et le soir, on s'embrouille, ouais, tout part en couille. J'ai pour seule preuve mon cursus scolaire. C'était du sale, des potes ont du viscère pendant les années au lycée. Regarde nos casiers judiciaires, c'était l'époque des amis déguisés. C'était pas facile chez nous, y'avait autant d'amour que de cris. En bas, les schlags me faisaient stresser. On se prenait pour Al Pacino pendant que ton futur amour en boîte se faisait frotter. Moi, je traînais avec mes chiens de la casse, mes anti-M et lions de l'Atlas. Ma mère voulait pas les voir à la maison, y'a pas de place. Sais-tu ce que c'est que vivre à trois dans un deux pièges? J'ai 21 ans, je laisse parler ma chance. J'ai tiré avec un flingue sur ma jeunesse. Y'avait Jules et Mounir, pas de filles dans l'équipe, pas de chichi, ouais, tout dans les tripes. On voulait faire des thunes et puis mourir. Des plans de cambriolage, finalement, jamais fait. J'en vis pas ma vie d'avant, mon grand sas. Sans la défaite, Little au placard, Dida au placard, 9-3, Yanis Leila posé dans une voiture garée. On raconte la journée, la routine. Et moi, tous les jours, je vais craper sans bousille. Des couples grattés dans ma chambre et des faces B à l'usine. Pour percer, je suis tout prêt, je vis mes concerts, j'hallucine, fini les taffes.
Son nom est Giorgio, le jeune rappeur du 18e arrondissement de Paris à 21 ans. Il signe un premier album remarqué intitulé À l'abri. Son objectif est de créer maintenant, écoutez bien, Sophie Desclosés, une conversation avec son public auquel il a délégué la direction artistique de son prochain album, une nouvelle mixtape gratuite avec un système de vote sur son site. Giorgio sur France Culture, je ne sais pas si c'est une recommandation ou une consécration. En tout cas, le jeune rappeur était en concert hier soir à Paris. France Culture en direct, 19h47. L'invité de Soft Power ce soir est Sophie Desclosés, PDG des éditions Fayard. Agnès Chevaux.
J'ai beaucoup parlé de transition numérique pour les médias et des difficultés de ces industries à se transformer. Qu'en est-il pour l'industrie du livre? Est-ce qu'on est dans les mêmes problématiques ou est-ce qu'on est un petit peu plus avancé?
On n'est pas dans les mêmes proportions, en tout cas, en termes de basculement numérique, ce qui change quand même beaucoup les choses. C'est-à-dire que on est prêt, on numérise, toutes nos nouveautés paraissent en e-book et en papier, la moitié de notre catalogue est numérisée. Donc on est prêt en tout cas pour ce basculement-là, mais en France, pour l'instant, il n'a pas encore eu lieu.
Non, on parle de 2% du marché du livre à peu près.
Ouais, c'est
contre
un peu plus.
Plus aux États-Unis.
Ah ben, aux États-Unis, c'est le basculement est déjà là, quoi. C'est en France, pour parler de Faya, on fait 5 à 6% de notre chiffre d'affaires en e-book.
Mais vous y croyez à ce livre numérique ?
Alors j'y crois pour, déjà que j'y crois ou j'y crois pas, je sais pas si c'est vraiment la question en fait. Moi du moment que les gens lisent...
Si chez Amazon ils attendent votre réponse,
c'est
ils sont, ouais, ils sont très très inquiets de ce que vous allez dire.
Jeff Bezos est à cran évidemment, mais non, mais ce que je veux dire c'est que que les gens lisent sur tablette ou sur écran ou sur papier, à partir du moment où le flux d'argent entre les gens qui consomment et les gens qui produisent du contenu n'est pas détourné, moi, ça ne me pose pas de problème en soi. Enfin,
pourquoi ça marche moins bien en France ?
D'abord parce que je crois qu'il y a un taux d'équipement en tablette et en liseuse, j'allais dire en liseuse, qui n'est pas encore très important. Et que,
des prix plus élevés aussi.
Des prix plus élevés, oui, peut-être, encore que je trouve que moi, le livre est un objet culturel, un bien culturel, c'est comme ça que ça s'appelle, qui n'est pas très onéreux. Mais je...
Ça coûte assez facilement 30 euros désormais pour un livre un peu costaud. C'est pas non plus très bon marché.
Qu'est-ce qui coûte 30 euros ?
Un livre, par exemple, ça peut coûter assez facilement.
Et ça en dit long sur les livres que vous achetez.
Non, mais par exemple, même un bouquin, tout simplement, dans la collection bouquin chez Robert Laffont.
Mais vous avez 2000 pages.
Oui, mais
non, mais c'est un
c'est presque
petit...
du poche.
Même si c'est un peu moins cher, moi je suis allée sur le site de Faya, pas seulement pour préparer cette émission, mais aussi pour préparer cette émission. Et puis j'ai pris n'importe quel livre, et puis je me suis dit, tiens, je clique, je vois comment je peux l'acheter en numérique. Alors c'est vrai que quand on clique sur l'acheter en numérique, après on retombe sur.
Vous avez le Baby Blues
Amazon.
D'Alexandra Sublette. Vous avez.
Il y en a plein.
Non,
ouais.
Ça c'était fait chez Flammarion.
Ouais,
non,
mais vous avez. On tombe sur Amazon, on tombe sur plein d'éditeurs.
Élise Carlin,
plein
un quick book sur les femmes de Hollande. Vous avez le plan cul, je cite, de Jean-François Bayard.
Ben, mais c'est hyper compliqué.
C'est hyper compliqué.
Bah,
quoi.
C'est hyper compliqué parce qu'on ne peut pas l'acheter tout de suite chez Faya. Il faut rebasculer vers des maisons d'édition. Mais je veux dire, ça ne se fait pas en un clic. Quoi. Il faut
aller sur Amazon pour que ça se fasse en un clic.
Il faut être un peu motivé. Justement, tout le problème, il faut être un peu motivé quand même.
Oui, il faut être un peu motivé, mais il faut aussi aller chez son libraire.
Voilà. Non, mais... Vous avez déjà lu des livres en numérique ou pas ?
Oui, bien sûr. Ouais, j'ai une tablette.
Donc vous avez une tablette de temps en temps, au week-end, etc. C'est une pratique pour vous
Surtout vu le nombre de livres que je lis, pour la sécurité de mes lombaires, il est souhaitable que je les lise en numérique. Mais non, pour revenir à votre question...
Ça, c'est un argument de plus que nous ne connaissions pas.
Ah bah ouais, non, bien sûr. Quand vous partez en voyage...
Il y a aussi les arbres, il y a plein d'arguments, l'argument... écologique,
bien sûr. Bucolique, bien sûr.
Non, mais je citais ces livres tout à l'heure d'Élise Carlin, etc. Le livre de Jean-François Bayard, le plan cul, entre guillemets, je cite, puisque c'est le titre de ce livre. Tout ça, il y a une sorte aussi d'évolution chez Fayard. Enfin, je ne sais pas si ces types de livres, avec ces titres-là, auraient existé il y a quelques années. C'est d'ailleurs pas que de votre fait. Il y a aussi une éditrice, Sophie Charnavel, qui est une éditrice reconnue dans les documents, qui vous a rejoint.
Qui est directrice éditoriale.
Mais au fond, comme s'il y avait un peu le grand éditeur d'histoire, aujourd'hui, battait un peu en retrait sur les sciences humaines, aller vers les documents, évoluer aussi. Mais bien sûr, vous allez me dire que c'est peut-être pas le cas, mais...
Non, c'était pas ça. C'est que je pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut faire des livres qui font l'actualité. Le livre d'Élise Carlin, c'est...
C'est un quick book, quand même, assez
quick
léger.
Book, quick parce qu'elle l'a écrit vite, mais quand on lit, c'est un récit... qui ne va pas du tout dans le people. C'est un récit politique extrêmement plaisant et nourri d'informations qui déshonore absolument pas ni la rédaction de l'Express à laquelle Élise Carlin appartient, ni le catalogue de Fayard. Et des livres d'actualité faits vite, La nuit du Fouquet, c'était il y a quand même déjà 7 ans et ça ne dépareille pas par rapport à Élise Carlin. Quant au plan cul, vous ne l'avez pas lu. Voilà, et Judith Pérignon, parce que Jean-François Bayard
oui, grand anthropologue,
est un grand anthropologue,
bien sûr.
Voilà, et Libération lui consacre 2 pages sur cette anthropologie d'une nouvelle pratique, etc. Donc,
mais on a l'impression que l'édition, on l'a dit déjà, mais évolue, je repose la question, vers le frais, le quick, etc. Est-ce qu'un auteur aura encore le temps de construire une œuvre sur la durée, l'absence de persévérance, disait et redoutait Claude Durand, par exemple, des éditeurs.
Alors, si vous aviez été moins biaisé que lors de votre visite sur le site Fayard, Frédéric, vous auriez aussi pu voir qu'il y avait une biographie de Junger par Julien Hervier, par exemple, qui marche plutôt bien depuis le début de l'année, qu'on a réimprimé 4 fois, ou une biographie de Jean Jaurès qui doit compter 800 pages, de Vincent Duclert et Gilles Candard, qui a été le livre le plus important de la commémoration Jaurès, et là encore qu'on a réimprimé plusieurs fois, ou encore le tome 3 de la correspondance posthume d'Arthur Rimbaud, de Jean-Jacques Lefrère, qui fait 1700 pages et qui bâtit une œuvre dans la persévérance, pour le coup originale, singulière, extrêmement importante, mais aussi des publications en musique. Donc je vois les, comment... ce qui vous intéresse, c'est le plan cul et l'Iscarlin. Qui puis-je ? Mais la richesse du catalogue Fayard
comment
est bien plus large que ça.
Comment se porte le livre d'histoire chez Fayard et en général ?
Alors,
parce que ça a été une des grandes, c'est un des grands marqueurs de l'histoire de Fayard.
Et ça l'est toujours.
Et puis vous êtes historienne vous-même.
Bien sûr, c'est un secteur extrêmement important. Le livre d'histoire, comme tous les livres en sciences humaines et sociales, un rapport a été est paru à l'automne dernier qui montre à quel point ce secteur peine à trouver un public équivalent à celui, pour le coup, d'il y a 20 ou 30 ans. C'est de plus en plus compliqué, mais on continue à en faire et il continue à avoir des succès, que ce soit Alain Corbin, Pierre Milza, la biographie de Jaurès que je citais. Et puis on cherche à trouver des nouveaux publics. Par exemple, on a lancé une collection de bandes dessinées historiques avec Glénat, de biographies, puisque la biographie Fayard est une des figures de proue de notre catalogue. On a lancé, par exemple, pour atteindre un public différent. Ouais, Philippe Lebel, on attend Jaurès et Saint-Louis. Et par exemple, Vincent Duclert, qui a fait la biographie de 800 pages qu'on a publiée et qui marche, et l'historien référent qui a supervisé la bande dessinée publiée avec Glénat sur Jaurès, qui va sortir prochainement.
Alors, à quand une biographie de Jeff Bezos, justement ? Parlons un petit peu d'Amazon. Deux questions. D'abord, les tensions avec Hachette, Annie Chevaux, peut-être, sur ce sujet.
Oui, on a vu notamment aux États-Unis, Amazon rend plus long l'achat des livres publiés par Hachette et par ses filiales. Alors, ils plombent en fait même les best-sellers à venir. C'est une façon d'exercer une pression sur Hachette pour que Hachette réduise ses marges. Comment ce bras de fer, qui paraît d'ailleurs assez improbable, peut-il se solder, peut-il évoluer selon vous, sachant que Amazon est le plus gros client d'Hachette.
Alors comment il va se solder, ça, j'en sais pas, je n'en sais rien, j'espère qu'il va se solder en notre faveur, mais il faudrait demander à Arnaud Nourry.
Le PDG d'Hachette.
Ouais. Le PDG d'Hachette Livre qui en effet mène cette négociation. Après, je ne vois pas ce qui vous paraît très improbable, parce que Amazon est connu pour avoir des méthodes relativement viriles en matière de négociation. Et je ne vois pas ce qui vous paraît si improbable.
Mais vous pensez que Hachette va vraiment, que cette pression peut vraiment s'exercer et que Hachette
ah bah elle
peut vraiment.
Là, en tout cas.
Oui, mais de là à ce que Hachette obtempère, c'est-à-dire que finalement réduit ses marges, décide de réduire ses marges pour faire plaisir à Amazon.
Je suis pas sûr que le sujet soit de faire plaisir à Amazon.
C'est plus la contrainte.
Oui, bien sûr. J'espère que cette négociation qui est en cours va aboutir en faveur, encore une fois, des producteurs de contenu et pas de ceux qui possèdent les tuyaux. Et en tout cas, ce qui est sûr et ce qu'elle montre, c'est qu'on a intérêt à être quand même adossé à des groupes solides pour pouvoir tenir tête à des entreprises aussi puissantes. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. How could you be so heartless? Oh, how could you be so heartless? How could you be so cold as the winter wind when it breeze, yo? Just remember that you talking to me, though. You need to watch the way you talking to me, yo. I mean, after all the things that we've been through, I mean, after all the things we got into. Hey, yo, I know what some things that you ain't told me. Hey, yo, I did some things, but that's the old me. And now you wanna give me. On se quitte avec Heartless de Kanye West, qui a dit qu'il était sans cœur. Vous étiez à Versailles ce week-end ? J'étais pas invité, bizarrement.
Vous n'étiez pas invité. La superstar du hip-hop américain s'est offert ce week-end à Paris un mariage hors norme. Tenez-vous bien, Kanye West a loué Oui, le château de Versailles pour épouser sa compagne Kim Kardashian, costume d'époque, chevaux empanachés, mousquetaires perruqués, ensemble de musique baroque, tout cela dans la galerie des glaces et les grands appartements du roi et de la reine, Beyoncé, Justin Bieber, Jay-Z était là aussi en grand arroi. On ne sait pas si bien, on ne sait pas si les fêtes, les fastes et les feux d'artifice se passaient ainsi dans le glamour et sous les lambris en feuilles d'or au temps de Marie-Antoinette, mais Versailles n'avait pas vraiment connu ça depuis la Révolution française. Ce mécénat nuptial va rapporter, dit-on, des millions à Versailles. C'est bien, car ça entretient le patrimoine national et ça n'a rien coûté aux heureux époux qui ont tout fait financer par des sponsors. Voilà, les tourtereaux sont aujourd'hui à Florence. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment, Sophie de Closet, d'avoir été l'invitée de France Culture, de Soft Power ce soir. Cette émission a été préparée par Mathias Meji avec l'aide de Martin Dourneau, à la régie Jean-Guilain Meige. Soft Power, une émission de Frédéric Martel avec Agnès Chevaux, réalisée ce soir par Perret Legras.